Le business.
Business of bouffe.
Business of bouffe.
C'est la culture de la bouffe. Toi, tu peux dire le mot bouffe.
Business of bouffe.
Dans le business of bouffe, c'est comme ça qu'on dit ici.
On assume complètement le mot bouffe ici.
Je suis très content de dire bouffe.
Je suis Philibert Chambre, entrepreneur et fondateur de Business of Bouffe, le podcast où on parle bouffe avec un angle business. Bienvenue dans ce quatrième et dernier chapitre de notre épisode consacré à Alain Passard. Alors Alain, dans le chapitre précédent, on a évoqué ton virage vers la cuisine végétale ou légumière, comme tu préfères le dire. On va parler maintenant de l'avenir. On l'a vu au cours des trois derniers chapitres, tu es clairement un chef visionnaire. Dans les années 2000, tu avais 20 ans d'avance, donc on se dit que tu as forcément des choses passionnantes et pertinentes à partager avec nous aujourd'hui. Je te mets un peu la pression. Alors tout d'abord, quel regard tu portes sur la nouvelle génération de chefs?
Ah, elle est bonne.
Qu'est-ce qu'ils ont de moins?
Bah, je trouve qu'il y a le métier a énormément changé, énormément évolué. Et je trouve qu'il y a une très très belle dynamique là. Quand je vois ce qu'ils feront avec un navet, une carotte, c'est impressionnant. Il y a vraiment des choses très très belles. Moi, ça m'intéresse de voir un petit peu. Je regarde ce qu'ils font. C'est encourageant. Le métier a pris une autre dimension. Bon, c'est devenu un métier. Je dirais artistique, hein. C'est formidable parce que moi, quand j'ai commencé, c'est vrai que c'était le début et tout. Mais en fin de compte, quand moi à 13 ans j'ai pris cette décision de devenir cuisinier, je l'ai prise aussi parce que j'ai eu cette lumière pour ce métier.
Ouais.
J'ai senti que ça allait devenir un métier. Ouais. C'est fou, hein.
C'est largement confirmé. Ouais. On vient de le découvrir.
Pour la cuisine, quel est l'avenir?
Ouais, non, alors sinon, est-ce que tu as un message à leur passer à cette nouvelle génération?
Bah, leur dire super, bravo les garçons et les filles, parce que ça aussi, elles sont bluffantes. Hein. Il y a vraiment des très très belles mains chez les femmes. Hein.
Et j'ose la question, tu as des noms que tu suis particulièrement?
Oh, bah.
Oui, il y en a au moins une qui maintenant qui est reconnue, installée, mais je pense qu'une Adine Grattard lui doit pas mal, donc il doit la suivre, mais elle est de la jeune génération, maintenant elle est déjà bien installée. Je pense qu'il y en a pas mal qui en tout cas peuvent revendiquer une même utilisation.
Celles que j'ai en ce moment là, elles sont formidables. J'ai 4-5 filles là, mais c'est un vrai bonheur de les voir dans l'émotion. C'est troublant, hein. Ce sont des couturières, quoi. Elles sont sur la pointe des pieds, ça danse autour du fourneau, c'est de toute beauté, quoi. Oui, bravo pour tout ce qu'ils font, parce que ça cherche, ça travaille.
Ouais.
Ça travaille. Tout le monde travaille. Ils cherchent.
Justement, toi qui es sur le terrain, au moins, tu pourras nous répondre. Soit on reproche à cette jeune génération, enfin, ce qu'on lui reconnaît, d'être en alerte, d'être curieuse, d'être très créative.
Ouais.
On leur reproche souvent de manquer de technique, de brûler un peu les étapes, c'est-à-dire d'aller tout trop vite. C'est vrai, c'est pas vrai? Est-ce que toi, dans tes cuisines, tu appréhendes des gens qui ont la même curiosité pour apprendre des techniques et en même temps pour laisser parler leur sens créatif, ou effectivement, peut-être parfois dégonfler un peu le melon pour avoir certains?
Ouais, je trouve qu'audio technique, moi ça marche pas mal. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que il y a parfois un petit peu trop de maquillage.
Ouais.
Hein, donc
on est trop dans le superficiel.
Je leur demanderais peut-être de gommer la main un petit peu, d'effacer le geste. Hein, c'est quand même beaucoup plus difficile de gommer que d'ajouter.
Mm-hmm.
Hein, et de faire parfois des plats, peut-être avec 4-5 gestes, mais les trouver. Donc ça passe par le gommage, tu vois.
On les passe,
et il en reste 3, mais il faut les trouver. Et qui sont d'une précision, et c'est eux qui vont faire le plat. Hein, mais
c'est un péché véniel, parce qu'effectivement, c'est un péché qu'on peut avoir quand on est un peu jeune. Ça
oui,
se corrige.
Bien sûr.
Si on écoute.
Ouais, tout à fait. Ouais. Hein, et puis, je pense que l'avenir va donner raison à la nature, hein, parce que je pense qu'le grand plat de demain sera un miroir de la nature.
Ouais.
Hein, donc, retrouvons un petit peu ce cadre merveilleux, hein, qui sont ces quatre colonnes où, hein, l'hiver,
les quatre saisons,
le printemps, l'été et l'automne, quoi. Et on travaille avec le panier. Et là, il n'y aura plus d'erreur dans les accords gustatifs. Parce que la nature a tout écrit. Hein, donc, si je te donne le panier là, de janvier, tu vas me dire non, mais je sais pas faire la cuisine. Je dis, c'est pas grave, vas-y, les accords sont faits. Fais-toi plaisir, fais ta petite jardinière.
Compose avec ce que la nature t'a donné.
En revanche, si tu me glisses une courgette et une tomate là en janvier, ça va déraper.
Fausse note.
Parce que d'abord, ce n'est pas une tomate, je ne sais pas ce que c'est. C'est un truc qui pousse en 50 jours. Ouais. Hein, et puis, si tu as envie, si tu as envie de te désaltérer en plein hiver, c'est ton problème. Ouais. Moi, je me réchauffe.
Avec de l'eau. On a une question justement d'une chef qui incarne à merveille cette nouvelle génération, très engagée d'ailleurs sur la cuisine végétale. Alors, je ne sais pas si tu la connais vraiment, mais je vais t'aider. En tout cas, le public la connaît.
Bonjour, Monsieur Passard. Nous voudrions vous demander quelle serait votre vision de la cuisine végétale pour la génération future.
C'est Manon Fleury, tu connais.
Oui, bien sûr.
Voilà, du restaurant d'Attil, qui est finalement, d'ailleurs, quand on fait nos recherches, c'est ta petite fille, parce que c'est une élève de Pascal Barbeau. Hein, donc, t'as essaimé.
C'est vraiment la filiation directe. Vraiment, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller.
Chez D'Attil.
Il faut vraiment y aller parce que je pense qu'il y a une vraie filiation. Avec sa personnalité propre. Mais d'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous avez vu, nous aimerions te poser des questions. Elle a le sens du collectif.
Ouais.
Elle a cuisiné et travaillé sa maison au-delà de la cuisine comme un vrai phalanstère, là encore. Tout est pensé sur la place de chacun, le juste rémunération. C'est une fille qui est vraiment une conscience de ce que doit être au-delà d'une cuisine, un restaurant, et ça se sent parce que quand elle pose une question, elle dit « Nous aimerions bien te demander, nous, l'équipe de D'Attil ». C'est la meilleure des confessions. Ouais. Donc moi, je pense qu'il y a une vraie filiation entre les deux.
Ouais. Et bel hommage, et avant de te laisser répondre, justement, le fameux « nous », il représente son associé que tu connais, qui est Lorraine Barjou, qui est passée par tes cuisines. Moi, je te laisse répondre. Donc, quelle est, toi, ta vision de l'avenir de la cuisine végétale pour les nouvelles générations? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Dans quelle direction il faut aller? Qu'est-ce que tu leur... passe comme relais.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Surtout, s'il vous plaît, respectons les saisons. Ouais. Respectons ce qu'il y a dans un jardin à toute saison. Voilà. Et on travaille avec ça. Il y a en gros, par saison, dans un jardin, à la louche, une vingtaine de saveurs. On travaille avec ça. Le problème aujourd'hui, c'est que le fait de croiser les saisons dans la casserole, ça marche pas. Hein. Et puis, c'est bien d'avoir une vingtaine de saveurs. On joue avec. Pourquoi aller en chercher d'autres? Ça va devenir confus, compliqué, pas bon. Voilà, en ce moment, en janvier, fabuleux. Poireau est magnifique, les céleris, les panais, hein, les différentes betteraves, les différentes carottes, les différents navets. Il y a plein de jolies choses.
Il y a encore beaucoup de boulot, hein, parce que c'est vraiment pas la règle du tout dans l'immense majorité des cuisines, malheureusement. Mais chez ces chefs de cuisine végétale, aujourd'hui, les saisons, c'est vraiment... À qui? Comment ils pourraient aller plus loin? Genre une Manon qui est cette nouvelle génération, quelle orientation?
Gommer le geste, effacer la main.
Ça, c'est important. C'est intéressant.
Ouais. Efface la main, faire un plat, peut-être avec deux, trois gestes. Il faut les trouver. Ouais. C'est dur.
Plus c'est simple. Dur. Ça, faut expliquer. C'est aujourd'hui, pour un plat, il y a 5, 6, 7, 8 gestes.
Ouais.
Parce qu'on va mettre de la technique pour justement travailler le végétal. Et toi, tu dis, là, on arriverait à une perfection.
Par exemple, pour que les gens comprennent bien, quel geste tu as pu trouver, toi? Parce que trouver un geste, quand on lui dit ça, c'est très joli, mais on dit, c'est quoi trouver un geste?
Mais est-ce qu'il y a une vraie définition, trouver le geste? Tu sais pas. C'est parfois la façon de couper, la façon de cuire, la façon d'assaisonner. Ça peut être un retiré, tu vois. C'est tout ça, c'est très subtil, quoi.
T'as un exemple, toi, de recette ou que t'as retravaillé récemment où tu t'es dit, finalement, j'ai enlevé un ou deux gestes et finalement, c'est mieux.
Tu vois, tu prends des choses très simples, tu vois. Tu cuis un navet en robe des champs avec sa peau à la vapeur. Hein, tu mets juste un trait d'huile d'olive ou un copeau de beurre salé.
Donc, on a évité déjà toute la découpe du navet.
Bien sûr.
L'éloge de la simplicité.
Gardons, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau? La forme des légumes est tellement belle. Arrêtons de systématiquement couper, trancher, émincer, écraser. Non, laisse ton navet entier, il est beau. Ouais. Travaille-le entier, ça va te permettre de travailler l'école du feu, la cuisson. Hein, une belle boule de céleri. Là, j'ai fait des topinambours. Là, c'est beau le topinambour. Toi, il y a plein de nœuds dans sa chair. C'est splendide, quoi. Ouais. Et après cuisson, tu peux trancher si tu veux. Mais t'auras pris le plaisir. Toi, t'auras pas fait des petites chiquettes de topinambour dans la casserole. Tu l'auras cuit dans sa peau. Ensuite, tu l'auras fait meunière. Et après, tu l'auras coupé. Tu vas avoir un beau dessin.
Et ben voilà, tout s'éclaire, on comprend mieux, ça gêne le sens de choses. Ouais.
Et plus globalement, selon toi, comment doit évoluer la gastronomie dans les années à venir en cuisine déjà? Est-ce qu'elle doit continuer de créer, d'innover? Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Et dans quelle direction? Est-ce que c'est l'ingrédient? Est-ce que c'est la technique? Comment cette nouvelle génération peut nourrir cette créativité aussi?
C'est très personnel, si tu veux. Il y a des chefs, on le voit aujourd'hui, si tu veux, qui auront besoin de rajouter dans leur cuisine du gingembre, du yuzu, des trucs qui viennent du bout du monde. Où tu gommes, où t'effaces, où t'as une main très présente. Ouais.
C'est sa personnalité, son histoire, sa culture.
C'est ça, bon. Mais pour aller plus loin, si on regarde votre parcours, je mélange les tuiles et vous, je suis un peu paumé. En tout cas, on a parlé beaucoup de votre rapport à la cuisine et notamment aux légumes, mais vous êtes un chef aussi très singulier quand on voit l'évolution des chefs ces dernières années. Pour la plupart, ils ont fait beaucoup de conseils, ils se sont démultipliés, on les voit beaucoup dans les médias, beaucoup dans les festivals. Toute chose non égale par ailleurs avec Alain Passard qui, lui, depuis qu'il a récupéré cette adresse, n'a jamais quitté son adresse. Ne s'est pas démultiplié, je crois, n'a jamais fait de conseils, fréquente très peu les festivals, n'a écrit que 2 ouvrages de cuisine, dont un pour enfants et un autre de collage. Est-ce que vous pensez que l'avenir de la cuisine, c'est pas aussi de se recentrer sur, j'allais pas dire le petit commerce, mais l'artisanat, la maison? On parle beaucoup de locavorisme, les mêmes qui te parlent de circuits courts courent le monde entier pour signer des conseils à Saint-Barth ou ailleurs. Est-ce que le chef ne doit pas revenir un peu, et notamment le grand chef cuisinier, sans non plus se couper du monde, revenir un peu à l'essentiel, à sa maison?
Moi, je me plais chez moi, je me plais dans ma maison. Je me plais à être chez moi, j'aime le matin venir avec les équipes et tout ça. J'aime cet endroit pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Mais je peux comprendre que, parce que j'en parle avec certains de mes confrères, qui justement, je pense qu'ils apprennent beaucoup à voyager.
Aller se nourrir cuisine.
Ouais, ils apprennent beaucoup.
Et surtout sortir de son restaurant, c'est important aussi. C'est pas critique qui va venir l'inverse, mais c'est important de voir d'autres tables, voir d'autres restaurants et pas uniquement d'être centré sur cette cuisine.
Bien sûr, sortir de son restaurant, avoir sa maison. Vous dites, employé, ça veut pas dire que tu t'enfermes dans la maison.
Non.
Et j'ai l'impression qu'on pourrait dire, certes, ils voyagent beaucoup, mais tu peux courir le monde. Moi, je vois beaucoup de gens voyager. Donc, on dit la même chose quelque part. Ouais. Peut-être voyager plus. Et peut-être obéir à des sollicitations si elles gardent du sens. Et en tout cas, quand tu t'enfermes dans ta maison, t'es pas à triple tour, rien ne t'interdit d'aller ouvrir un jardin. J'imagine que vous êtes un grand voyageur.
Oui.
Bon, c'est ça que je veux dire. Faut pas te donner l'illusion aussi du voyage.
Et c'est vrai que ce que tu dis, Emmanuel, c'est que quand on regarde ton parcours, et c'est ça qui est très atypique, c'est qu'aujourd'hui, t'as été très, très focus, très fidèle à ta vision. T'as un restaurant et tu t'es pas démultiplié ou perdu.
C'est
un modèle qui est atypique. Aujourd'hui, on voit en effet les chefs multipliés, mais ça pose une question qui est la rentabilité aussi beaucoup. C'est un sujet qu'on aborde beaucoup dans Business Off. On voit souvent les chefs démultiplier les activités parce que le restaurant gastronomique seul est difficilement rentable et ils vont avoir la rentabilité plus sur une deuxième adresse, une seconde adresse, sur des partenariats, sur l'édition, d'autres activités.
Très juste.
Toi, a priori, t'as pas eu besoin de ça et ça t'a permis d'être très focus, désolé, c'est un peu le terme.
J'ai choisi, à 14 ans, j'ai choisi d'être cuisinier, j'ai jamais changé d'avis.
Et t'es resté. Une dérogation, c'est que t'es devenu maraîcher aujourd'hui, mais c'est très logique et c'est pour bien faire ton métier. Mais aujourd'hui, t'as 2 métiers, c'est un chef maraîcher d'ailleurs.
Ouais.
Mais t'es pas parti sur autre chose, t'as pas fait d'édition, t'as pas fait de...
Non.
Tu fais pas...
Mais alors comment, vous avez à peu près appris l'art de la gomme, comment on apprend à dire non? Parce que pour leur défense, à beaucoup de chefs, pour des raisons de rentabilité parfois, c'est aussi des sollicitations qui se refusent pas, ou en tout cas, tu crois qu'il ne faut pas refuser. Comment vous avez appris à dire non? J'imagine que des éditeurs, on a dû en avoir sur le bec pas mal.
Non mais Emmanuel, tu sais, moi j'ai un restaurant et mes jardins. Je peux te dire que le soir, je dors bien. Donc, tu vois, hein.
Par rappel, une fatigue inutile.
T'as jamais eu la tentation d'ouvrir un deuxième restaurant? Ou entre la soirée proposée ou la tentation?
Non, mais tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire quelque chose de différent.
Ouais.
Un restaurant, je sais ce que c'est, j'en ai un.
Ouais.
Donc.
Ouais, mais non, mais tu vois,
c'est vrai.
Mais tu pourrais en faire un différent ou qui te permettrait de proposer
un restaurant émouvant.
Ça reste un restaurant.
Ouais, donc, le même restaurant, mais la carte sera jamais la même. Et quand on oublie les saisons, c'est ça. C'est l'illusion. Moi, je pense que c'est l'illusion du mouvement.
Ouais,
en fait, tu as 10 restaurants, mais c'est les mêmes.
Si on revient sur l'engagement, donc on l'a vu sans être militante et un chef engagé. Aujourd'hui, quels sont les enjeux de la restauration en termes de responsabilité, d'écologie? Dans quelle direction on doit aller pour aller encore plus loin sur ces sujets-là? Parce que pas tous les chefs peuvent acheter comme tu l'as fait, des jardins. Est-ce que tu as une vision par rapport à ça ou des...
Bah oui, il faut essayer.
Le gaspillage, sur la réduction d'énergie, ces sujets-là.
Bien sûr, c'est le traitement des déchets, éviter tous ces emballages plastiques, ces films plastiques et tout ça. Ça, tu peux très bien conserver une assiette de légumes cuites entre deux assiettes, et ça t'évite de tous ces films qui sont au-dessus de tout.
Toi, tu mets en place ces
choses-là. Ah ouais. Bien sûr, ouais. Ah ouais,
et ça, en plus, c'est la nouvelle génération, ouais, qui te sensibilise à ça. Ouais. À ça,
ouais. Ouais. Mais déjà, le fait de respecter les saisons, déjà, c'est
voilà,
déjà
tu réduis considérablement ton impact.
Ah, c'est énorme.
C'est sûr.
C'est énorme.
Et puis, tu as un sourcing ultra local.
Ouais.
Et tu réduis le gaspillage. Donc, ça, c'est très vertueux.
La transmission, quand même.
Parlons de transmission, vas-y, Emmanuel.
Passard, le passeur, dit-on. Ça, c'est quelque chose qui vous aura collé à la peau, mais pour le meilleur. C'est, si on observe un peu le paysage gastronomique français, et même au-delà français d'ailleurs aujourd'hui, tous ceux qui sont passés par chez vous, c'est absolument énorme. On va pas en faire la liste. Je crois qu'on aurait un guide Michelin ou la moitié d'un guide Michelin. Qu'est-ce qui fait, vous disiez que vous, Saint-Dérins, vous aviez allumer la petite étincelle de la créativité. Beaucoup de chefs, j'ai interviewé Barbeau, Adeline Grattard, m'ont dit c'est ça aussi, pas ça. C'est qu'on arrive, techniquement, on n'est souvent pas si mauvais que ça, voire plutôt bon, mais lui va nous offrir quelque chose de plus, c'est ce ressort créatif, c'est vrai, pas vrai? Comment c'est équipe et comment vous dirigez, notamment toutes vos jeunes qui débarquent?
Quel
professeur êtes-vous?
Non, déjà, Emmanuel, le fait d'être hyper présent au sein de la maison, ça veut dire que je leur ai tenu la main service par service.
Tu les formes, ouais.
Hein, donc il y a une formation ici. Hein, et puis
un chef présent.
Voilà, donc c'est du temps passé avec eux. Hein, ils s'en souviennent et effectivement on a le temps, parce qu'il y a rien sans le temps. On a le temps de peaufiner les choses, hein, d'améliorer les choses dans le geste, dans la cuisson, dans l'assaisonnement. On se corrige, on échange, on dialogue. On a passé des heures, des jours au fourneau, des semaines, pour certains des années, quoi. Hein, où j'étais là tous les jours à faire de la formation. Donc c'est sûr que bon...
La réponse,
ça,
elle est là.
Ça passe par là.
C'est là.
Non, mais je me suis toujours... Parce qu'on dit toujours passard le passeur. Je me dis, mais pourquoi lui serait plus passeur que les autres? Bah vous voyez, bah, la question, elle est simple. Elle est vite répondue. Comme il est présent.
Oui.
Comment veux-tu que les grands chefs aujourd'hui fassent une transmission? La plupart ne sont pas dans leur cuisine. C'est pas un reproche, mais la transmission fout le camp. À moins que tu aies un sacré second. Mais c'est pas son rôle non plus.
Non, puis c'est un véritable plaisir. Tu vois, l'enseignement, c'est trop beau. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vois, tu trouves des jolis mots, des jolis gestes, des jolies phrases. Tu vois,
ouais, c'est pour emmener une équipe.
Ouais. Tu parles des jardins et tout. C'est formidable. Mais bon, comme tu le dis, faut en avoir envie.
Parce que c'est du temps.
Ah bah
et
oui.
De l'énergie, ouais. Et de la diplomatie.
Ouais.
Et ça doit jouer certainement essentiellement. Mais il y a aussi le message que tu portes. Enfin, c'est justement cet engagement sur le végétal qui a fait énormément de petits. C'est ça qui joue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de petits passards.
Ah ouais,
c'est vrai.
Ouais, mais je crois que les jardins les ont énormément séduits. Ouais. Ils pensent tous à leur passage ici.
Est-ce que tu acceptes qu'on dise que tu as été un visionnaire, un précurseur du végétal ou non? Mais maintenant qu'on arrive à la fin du podcast,
ouais.
Ou non, on est en train de comprendre que c'est un cheminement et c'est un sujet personnel.
Tu sais, moi, j'ai toujours suivi, tu vois, depuis le début de cette histoire, c'est la nature qui donne le tempo, quoi.
Ouais.
C'est tout, c'est elle qui a écrit le plus beau livre de cuisine. Hein.
Bah non, c'est la phrase de chute, ça.
Ah, moi, j'avais
la nature
quand même...
a écrit le plus beau livre de cuisine. Je sais pas ce que tu vas écrire et ce que tu vas lire, mais tais-toi.
Non, j'avais,
dans
j'avais...
tout, abstiens-toi.
Non, j'ai encore une question, j'ai encore une thématique qui m'est chère et je sais qui est cher à Emmanuel, si je veux aussi qu'on parle encore des guides, des classements, parce qu'on a vu...
Pour ça, je voulais pas que tu l'abordes.
Ouais, je sais bien, t'as essayé de me court-circuiter, mais non, mais c'est intéressant d'avoir ta vision aujourd'hui, t'as fait tes preuves, t'as été très indépendant. Quel regard tu as sur le rôle des guides, des classements?
Mais je suis un pur produit du
Michelin.
Du Michelin. C'est ouais. Eux qui ont lancé la maison.
Ouais.
Hein, bon, avec le Goemio, puis tous les articles qu'il y a eu, quoi. Mais c'est.
Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette hégémonie du Michelin qui est parfois critiquée, notamment par mon voisin? Est-ce que c'est pas trop? On a interviewé Gwendal. Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que quel parce que qu'on voit ces chefs qui vivent dans la crainte de la perte d'une étoile, ou les autres qui sont dans le stress et cette angoisse de est-ce que je vais avoir une étoile? Est-ce que c'est pas trop?
Écoute, faut vivre tout ça calmement.
Ouais.
Hein, faire son travail, ouais. Et tôt ou tard, t'es récompensé si tu fais quelque chose de bien.
Et au-delà du Michelin, des guides et j'allais dire des médias traditionnels, tout ce qui est aujourd'hui réseaux sociaux. Alors là, je parle pas forcément en termes d'influence, mais vous, en tant que chef, c'est aussi un outil que vous avez à disposition. Finalement, vous n'avez pas la main sur la critique, quoique parfois, pas la main sur le guide Michelin, quoique parfois. En revanche, vous pouvez communiquer sur vos propres adresses via les nouveaux réseaux sociaux. Est-ce que vous les pratiquez et qu'est-ce qu'elles vous apportent? Et si vous les pratiquez, est-ce que vous les pratiquez à la manière Passard, c'est-à-dire à belle distance, avec un peu de gomme quand même?
Ouais, bah moi c'est vrai que je poste énormément de d'astuces, des tours de main, des recettes, hein, parce que il y a un message que je veux faire passer, c'est la saisonnalité. Hein, donc voilà, on est en janvier, je vais pas mettre la, ils vont pas avoir la couleur d'une tomate ou d'un concombre dans une de mes recettes. Mais pour revenir au
tu utilises les réseaux, ouais, vas-y.
Ah bah oui. Et pour revenir au guide, on a besoin, tu sais, pour lancer une maison. On a besoin de tous ces classements,
et même
de ces
encore
guides
aujourd'hui,
ces...
et même pour la nouvelle génération, parce que je parlais de messages
bien
tout à l'heure.
Bien sûr, bien sûr.
On a tendance à critiquer le Michelin, mon voisin aime ça, mais en même temps, aujourd'hui, il reste indispensable. Et
moi, j'ai pas dit que je voulais le voir disparaître. Ouais. Au contraire, c'est un amour-haine. C'est-à-dire que moi, je crois à la force des institutions. Je suis toujours, demain, me dit, Michelin disparaît, je suis le premier à pétitionner. En revanche, quand on est un gros guide rouge et qu'on se dit révolutionnaire, faut savoir faire la révolution. Ouais. On peut dire que c'est une révolution lente chez Michelin. Voire avec beaucoup d'erreurs, et je pense que ces dernières années, il est moins bon qu'il n'a été. Et c'est pour ça aussi que son influence est moins forte qu'elle n'a été. Elle reste importante, mais elle est partagée, ça c'est tant mieux. Mais il faudrait peut-être qu'il se réveille un peu, parce qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas. Là où il était beaucoup plus en alerte avec d'autres directeurs, qui avaient justement l'audace d'un Derek, de garder trois étoiles, et qui étaient des vrais guides accompagnateurs, parce que c'est peut-être des gens qui savaient bouffer, qui connaissaient ce paysage, qui venaient de là aussi.
Et toi, Alain, est-ce que tu pourrais te permettre aujourd'hui d'être critique vis-à-vis du Michelin? Est-ce que tu as des... pas des critiques, mais est-ce
lui,
que...
lui, il a trois étoiles.
Est-ce que tu as des souhaits qu'ils évoluent dans une direction, dans une autre?
Bah écoute, moi je trouve qu'ils ont fait cette étoile verte,
ouais.
Hein, qui est une très bonne chose.
Toi, t'en as une d'ailleurs, l'étoile verte?
Ah bah oui,
on est d'accord.
De la part de Michelin, oups, on l'a oublié.
Voilà, mais
on va
le vérifier.
Et moi, c'est vrai que ça, je l'attendais. C'était c'est important aujourd'hui de qu'il y ait des repères dans un restaurant, un chef qui se donne du mal avec justement son maraîchage ou autre. C'est important, non?
Donc ça, c'est bien, on les félicite. Mais est-ce qu'il y a une critique? Est-ce que Emmanuel aussi? Mais
est-ce comme le Bip Gourmand a été quelque chose de formidable.
Est-ce qu'il y aurait une critique vis-à-vis du Michelin?
Moi, non, j'ai pas de critique. Ouais. Je suis un pur produit de la maison. Monsieur Neigelaine à l'époque qui m'avait découvert à l'époque d'Anguin. Et donc, ils m'ont toujours suivi depuis.
Pour accompagner, en effet, ouais, ça va faire bientôt 28 ans que tu as 3 étoiles. D'ailleurs, quel est le secret pour toi?
Bah, on l'a
gardé 3 étoiles.
C'est la créativité.
Ouais,
la créativité, se renouveler. Je pense que c'est la clé. Hein.
Ouais, peut-être aussi tenir. Savoir se mettre à distance, ouais. D'avoir beaucoup de respect,
oui.
Sur Michelin comme tu as. Mais c'est difficile. Mais on a toujours senti qu'il n'y a pas beaucoup de panique. C'est-à-dire qu'il y a un côté très zen. Cultiver son jardin. Je les ai, je suis heureux. Si je ne les ai pas, je verrai les questions qu'il faudra se poser à ce moment-là. Ouais. Mais il n'y a pas de panique. Pas de fébrilité, j'ai l'impression, ça veut pas dire dans l'intérieur, dans la réalité Passard ne se pose pas de questions, alors que pauvre certains jeunes chefs ou certains chefs, dès que vient le Michelin, ils tremblent de tous leurs os, faut peut-être se départir un tout petit peu du guide. Ça veut pas dire l'oublier, s'en départir.
Ouais, puis bon, il y a l'expérience.
Ouais, maintenant, ouais, c'est clair. Ouais. En synthèse, comment est-ce que tu définirais en quelques mots le restaurant gastronomique de demain? À 4 heures.
Déjà ce qu'on disait, donc déjà bon, vraiment un lieu où vraiment il y a une harmonie dans les saveurs par rapport au respect des saisons, ça c'est sûr. Et puis une belle créativité, des belles pièces entières comme on disait, qu'on aimait retrouver.
Ça revient.
Ouais. Et une question plus personnelle, comment est-ce que tu imagines ton restaurant dans 10 ans?
J'espère qu'on aura toujours cet enthousiasme, que la maison sera toujours vivante comme elle l'est aujourd'hui.
Mais il y a, la nouvelle génération de passards qui est là.
Oui, oui.
Y a peut-être en parler. Je crois qu'en cuisine, il y a des jeunes passards.
Ouais, 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 tout à fait.
Tu prépares la suite? Est-ce que tu formes un successeur?
Ouais, j'ai mon fils. J'ai mon fils cadet, ouais, Louis, qui a 24 ans, ouais, qui
travaille avec toi.
Qui travaille avec moi, là, depuis 3 ans. Et donc, bah ouais, c'est bien.
C'est qu'ils reprennent les rênes.
Ouais, bah oui. Ouais.
C'est génial.
Surtout, je crois que c'est un choix de sa part. Il était parti sur des voies de...
Oui, ouais.
C'est post-Covid qu'il s'est posé des questions.
Ouais.
Donc, c'est vraiment là encore sa volonté propre. Donc, il faut qu'il réapprenne pas tout, parce que quand tu as été élevé par un père cuisinier, ça aide un peu, mais il doit refaire ses apprentissages. Enfin, commencer plutôt.
Tout à fait. Et puis aussi, saluer toute la belle équipe de l'Arpège qui est là de longue date. Hein, mon chef qui a 20 ans de maison, la directrice de salle aussi, Aurélie... On a vraiment une belle équipe qui est là de longue date. Et il n'y a rien sans ça, quoi. Ouais.
Eh bien, messieurs, on arrive à la fin du podcast. On a quelques questions rituelles de clôture. La première, quel a été ton plus gros échec, ton plus gros apprentissage et tes plus grandes fiertés, réussite?
Échec culinaire?
Tout, ce que tu veux.
Ça veut tout dire.
Culinaire, business, ce que tu veux.
Bah non, honnêtement, moi j'ai la baraka.
On l'a senti.
Ouais.
Pas d'échec, des convenus, mais tu rebondis, t'apprends, comme on dit aussi.
Bah ouais, mais en même temps, tu sais, comme j'entreprends quand même pas beaucoup de choses, hein, donc tu vois, moi je suis fidèle à ma maison. Bon, j'ai eu ces belles, ces petits retournements de situation, mais bon, ça s'est toujours bien passé.
Tu l'as choisi, t'as été moteur, hein, ce grand virage. C'est vrai que c'est rare, souvent quand on interview des personnalités, il y a souvent un gros échec, il y a souvent une période de traversée du désert, là on l'a pas vu.
Non, honnêtement non, ça a été que du bonheur, chaque décennie, de l'apprentissage à la période Arquestrat, Enghien, Bruxelles, et puis ici bien sûr. Mais tu sais, ce qui est important aussi, c'est de se sentir accueilli dans sa maison. Et moi, je me sens accueilli tout le temps.
Par les équipes,
par les murs, partout.
Partout.
Ouais, ouais, ouais.
Et ta plus grande réussite, donc c'est ça, c'est cette maison qui perdure et qui a pu signer.
Ouais, bien sûr.
Je fais les questions et les réponses. Mais enfin, tu peux dire autre chose.
Je fais du rubin, quoi.
Ouais, je fais du rubin. Ouais. Quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans le business de la bouffe ou global, dans la restauration?
Tout commence au quotidien.
Tout commence au quotidien. C'est-à-dire.
Chaque jour est le premier jour.
Voilà, il faut. Et qu'est-ce que tu dirais au jeune Alain Passard de 14 ans? Qui décide de démarrer sa carrière avec cet apprentissage. Si tu pouvais lui parler aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais?
Ah bah que la lumière était belle ce jour-là et que si c'était à refaire, ça serait le même parcours.
Tu refais tout, ouais.
Ah ouais.
Est-ce que tu as un cadeau pour nos auditeurs qui sont arrivés au bout de ce podcast? Un bon plan bouffe à partager, un livre, un podcast, une série, un film, un restaurant, un légume?
Une visite au jardin.
Dans ton jardin?
Oui.
Ah oui, mais ça, on n'en a pas parlé parce qu'on a dû accélérer un moment. Et tes jardins, ils sont pas ouverts au public quand même.
Non.
Ouais, attention, parce que si tu dis ça, tu vas avoir des appels. Il y a quelques personnes qui nous écoutent et moi, perso, ça me fait un peu rêver.
C'est pas grave,
je voulais d'ailleurs enregistrer.
T'organises un concours.
Ouais. Bon, alors là, je prends le défi.
Ah ouais.
Moi, je veux bien parce qu'on m'a parlé d'expérience dans tes jardins. Parce que tu organises dans les jardins des dîners, des déjeuners exceptionnels.
Oui, ouais, on reçoit là-bas. Mais oui, il n'y a pas de restaurant, c'est chez moi. Donc c'est vraiment
Et comment on fait pour.
Les fidèles de l'Arpège.
C'est les fidèles de l'Arpège.
Il faut être membre.
Ouais.
Avoir un parrain et une marraine.
C'est vrai, c'est génial.
Non, mais c'est vrai, il y a un club, il y a quelque chose.
Il vient d'inventer.
Ouais, vas-y. Non, après, il y a des initiatives. On salue le club Moi Chef aussi qui fait des choses chez toi, je sais.
Ouais.
Et une dernière question, dans ton réseau d'entrepreneurs du business de la bouffe, ou des chefs, hein, on a fait beaucoup de chefs ces derniers temps, mais qui est-ce que tu nous recommanderais comme prochain invité pour échanger comme ça en profondeur pendant 2 heures?
Ah bah écoute, je sais pas, un artiste dans l'art peut-être.
Alors plutôt dans la bouffe, hein, business en bouffe, mais ouais.
Un cuisinier, tu veux? Non.
Tout, et pourquoi pas un jardinier? Sylvain Picard?
Bah ouais,
à la fin, là, je fais les questions et les réponses, mais vas-y, si t'as d'autres recommandations.
Ah bah Sylvain, il sera ravi.
Non, et puis un chef aussi, où il y a Pascal Barbeau aussi, que j'ai jamais... on n'a jamais reçu encore dans Business
Proof. Ah, il faut que tu le fasses.
Pascal.
Ah bah oui.
Ouais, ça m'a donné envie en préparant cette interview. Est-ce que t'as un mot à ajouter? Est-ce que t'as quelque chose à ajouter?
Non, écoute, c'était un moment délicieux. Hein, on a bien échangé, on a bien parlé, ça a réveillé plein de bons souvenirs.
Ouais.
Hein, et j'adore revivre un petit peu ces moments avec Michel Kerrever, Gaston Boyer, Gérard et puis Alain Sandras.
En tout cas, tu as eu le sourire du début jusqu'à la fin. Moi, et je pense Emmanuel aussi, on a passé un très bon moment. J'espère que nos éditeurs aussi. Je te remercie et bravo pour cette carrière et cette droiture dans ton projet. Emmanuel,
vous remarquerez qu'on en a très peu parlé, mais qu'on pourrait quand même l'analyser. C'est un sacré breton. Hein.
Ouais.
C'est un côté menhir, mais un côté droit
ouais.
dans la tempête. On n'a pas assez dit qu'il était breton quand même.
C'est vrai.
On l'a Je dit le rappelle.
Au début,
mais à part ça, vive Morlaix.
Peut-être que tout s'explique. Monsieur à côté a des origines bretonnes, c'est pour ça. Ben, merci à tous les deux. Merci Emmanuel et merci Alain. À très bientôt.
À bientôt.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est important pour nous aider à gagner de la visibilité. Merci et à très bientôt.